Audiolib présente Le chat du jardinier de Thomas Schlesser, lu par Renaud Bertin Cordeliani. Au bon et au mauvais élève, mais surtout au mauvais. Au mauvais et au bon professeur, mais plutôt au meilleur. Première partie. La voix des tempêtes. Chapitre 1. Saigner. Le chaton sommeillait, minuscule et tiède, dans une paume colossale. C'était celle de Louis, jardinier puissant et taiseux, dont le poids faisait craquer le canage d'une chaise. Il se tenait assis à l'étage d'une humble maison en pierre. Son visage inquiet semblait prêt de se défaire. Du pouce, il effleurait un point, juste au creux de la gorge de la bête. Un point infime, qui pourtant occupait tout son esprit. Louis veillait ainsi l'innocente boule de poils enroulée sur elle-même. Rêvait-elle? À quoi donc pouvaient ressembler les songes d'un être si récemment venu au monde? Tandis que cette pensée le traversait, il regardait par la fenêtre le balancement des grands arbres centenaires. La tempête s'intensifiait, tordait l'air, brisait les rameaux des oliviers. Mais le chaton, indifférent au vacarme, ronronnait. Dehors, les vrombissements anarchiques de l'orage. Dedans, le murmure régulier, apaisant, de l'animal. Où avait-il appris que la fréquence de ce son oscillait entre 26 et 44 Hertz? Il ne s'en souvenait plus. Peut-être l'avait-il inventé. Mais il en était certain, le ronronnement est un signe plus ambivalent qu'il n'y paraît. Si le corps d'un chat vibre ainsi, de façon presque tellurique, ce n'est pas seulement pour manifester une joie pleine et entière, c'est aussi pour lutter. Ce souffle feutré soigne les blessures, guérit les maux, répare les os, les tissus, le sang. Louis caressait le pelage gris et blanc. Il aurait pu continuer sans fin. Le ciel convulsait à présent et emportait dans sa furie les paysages du midi. Les pins penchaient, ployaient, sifflaient. Ils périraient peut-être. À chaque branche brisée, ils criaient leur peur de tomber à jamais. Le vent accélérait encore, ivre de sa propre vitesse. Toute la campagne priait en secret pour que cesse cette frénésie insensée de l'air et de la pluie qui, sous l'effet des bourrasques, tombait à l'oblique. Et ce n'étaient ni les lances du mistral, ni les colères familières de l'orage ou de la foudre, si fréquentes sur les côtes méditerranéennes, qui faisaient ce soir-là claquer les volets et sursauter les enfants, mais un tumulte d'une violence inconnue, presque surnaturelle. Louis observait, inquiet, la saignée qui entamait les prairies et les champs. Dans la demeure voisine, il perçut un décèlement de pierres sèches. La déflagration se confondit avec le désarroi qu'il habitait depuis le matin, comme si les éléments, dans leur déchaînement, donnaient corps à sa colère mêlée de chagrin. Cette rage avait pour cause une funeste nouvelle. Le chaton était condamné à court terme. Il mourrait prématurément, sans espoir possible, lui avait-on dit. Une dizaine de jours auparavant, l'homme avait noté que son compagnon lapait son lait avec moins d'appétit. L'animal se montrait contrarié au moment de plonger le museau dans sa coupelle. Louis l'avait alors conduit chez une vétérinaire fraîchement sortie de l'université et installée dans une ville voisine. Après une série d'examens, elle avait eu les maux fatals. Sous la douceur des poils s'était nichée une vilaine tumeur au niveau de l'œsophage. Il n'y avait rien à faire. La jeune femme avait suggéré l'impossible, envisagé une euthanasie pour épargner à la bête les souffrances à venir. Louis n'avait rien répondu. Il n'avait pas posé de questions ni dit au revoir. Il s'était contenté de reprendre le chaton contre lui et, instinctivement, de tourner son pouce là où le mal avait mystérieusement germé, espérant ainsi dissiper le cancer naissant. Puis il était revenu chez lui, meurtri. Alors le vent